terriennes et autres formes de vie. Sachez-le, la vérité est sur Radio Saint-Afrique pendant l'heure fantastique. Espace, frontière de l'infini vers laquelle je voyage. Ma mission, explorer la littérature, le cinéma et la télévision, découvrir les grands thèmes du fantastique et de la science-fiction et, au mépris du danger, reculer l'impossible. Joignez-vous à moi et partez explorer de nouvelles planètes, des mondes étranges, rencontrer des créatures merveilleuses ou effrayantes, mais surtout, restez prudents, car ils sont parmi nous. Bonjour et bienvenue dans l'heure fantastique, l'émission dédiée au fantastique sous toutes ses formes. Après deux saisons passées à voyager dans le temps, à marcher aux côtés des super-héros, à lutter contre les zombies et à chercher le Graal, l'heure fantastique revient pour une troisième saison. De nouveaux thèmes, de nouvelles œuvres, de nouvelles interviews du fan, de nouveaux films de pucelles et bien entendu, de nouveaux conseils pour vous permettre d'affronter tous les périls d'un univers fantastique. Cette reprise que je dédie à Coralie, Damien, Mion, Jaric, Grégoire et Marie-Laure, j'ai choisi un thème que j'avais envie d'aborder depuis très longtemps, l'héroïque fantasy. Surtout, je brûlais d'évoquer deux œuvres en particulier. Alors, voilà ce qui va se passer. On va commencer par une petite marche entre la Comté et les terres du Mordor, afin d'explorer l'univers de Tolkien. Évidemment, c'était incontournable. Puis nous irons faire un tour du côté de Westeros et nous nous mêlerons du jeu des trônes avec George Martin. Nous écouterons ensuite Quentin qui nous parlera des jeux de rôle. Nous rirons un bon coup avec le film de pucelle du mois, George et le dragon. Et puis bien sûr, nous finirons cette émission par les traditionnels conseils de l'heure fantastique. Comment s'équiper pour une petite traversée des terres solitaires? Comment voyager sur les routes des sept royaumes en toute sécurité? Quels moyens pour poursuivre une quête héroïque sans se ruiner? Ni se faire tuer, toutes les réponses sont sur Radio Saint-Afrique. Commençons avec Tolkien. Déjà, il faut que je vous dise qu'à l'idée de m'attaquer à un tel monument, j'ai un peu paniqué. Résumer une œuvre aussi dense et aussi riche sans la trahir est aussi faisable que faire rentrer l'annuaire Île-de-France sur un post-it. Tolkien a créé une véritable cosmogonie. Comprenez, il a inventé un univers, tout entier, sans négliger aucune dimension. Certains auteurs s'appuient sur des légendes existantes, s'inspirent de lieux ou de personnages déjà connus, situent leur intrigue dans une époque historique réelle. Tolkien recrée une géographie, une histoire, une mythologie, une biologie peut-on ajouter si l'on prend en compte les espèces variées qu'il invente. Il a créé un monde et a passé son existence à lui donner vie à travers ses œuvres. Les connaisseurs comprennent donc bien quelle est ma difficulté. Présenter cet univers en quelques phrases ne va pas être de la tarte. Mais ce n'est pas ce qui me fait le plus peur. J'ai bien davantage paniqué à l'idée d'écrire une analyse et une critique sur l'œuvre de Tolkien. Que pouvais-je trouver à dire qui n'avait pas déjà été dit, tant l'œuvre est devenue culte, quand des bien plus spécialistes que moi ont déjà décortiqué ses livres. Face à la pression qui montait, j'ai opté pour une stratégie en trois étapes. D'abord, la prétérition, cette jolie figure de style qui consiste à dire ce qu'on ne peut pas dire et qu'affectionnait tout particulièrement Ronsard lorsqu'il déclarait à tout va dans ses poèmes que la beauté de sa bien-aimée était indicible, en décrivant par là même toute l'intensité. Donc, prétérition, l'œuvre de Tolkien est impossible à décrire tant elle est vaste, riche, complète et extraordinaire. Deuxième étape, la modestie. Tolkien était professeur de littérature anglaise, philologue, ce qui signifie qu'il étudiait le langage écrit, et son œuvre demeure la preuve irréfutable que le fantastique n'est pas, de loin, un sous-genre pour préados et mérite sa place dans les classiques. Face à cela, je ne peux que m'incliner bien bas. Troisième étape, la pitié. Soyez charitables, chers auditeurs, soyez compréhensifs, et vous tout particulièrement les connaisseurs, vous qui avez déjà fait, peut-être plusieurs fois, le trajet de la Comté au Mordor. Ne m'en voulez pas trop si je m'égare en chemin. Voilà. Maintenant que toutes les précautions ont été prises, je peux me lancer. Alors, c'est l'histoire d'un anneau. Pas tout à fait, pas que, mais on va commencer comme ça. Et la mention de cet anneau est faite pour la première fois dans le livre « Le Hobbit ». Pour les non-connaisseurs, oui, le film est sorti après celui du Seigneur des Anneaux. Mais nous, on va se faire ça dans l'ordre, celui de la chronologie de l'histoire et de l'écriture de Tolkien. Donc, commençons par « Le Hobbit ». Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère suintante. Non plus qu'un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s'asseoir, ni sur quoi manger. C'était un trou de hobbit. Ce hobbit, une créature tout à fait sympathique, s'appelait Bilbon Sacqué, Bilbo Baggins en anglais, et comme tous les hobbits, menait une vie paisible dans la comté. Mais vint Gandalf l'enchanteur, et vinrent les nains qui l'entraînèrent dans une aventure. Et voilà Bilbo qui cavale à poney avec des nains armés de haches. De cette aventure, qui, je le précise, ne fait pas trois, mais un seul tome, contrairement à ce que les films pourraient laisser à penser, notre hobbit trouve un anneau. Il le vole plus précisément à une étrange créature nommée Gollum. Ce n'est pas un anneau ordinaire. Il possède le pouvoir de rendre invisible son porteur, ce qui va rendre quelques services à Bilbo. Je laisse là l'histoire du hobbit. Si vous voulez en savoir plus sur Thorin et Cuchen, la montagne solitaire, Smaug le dragon, l'Arkenstone et la bataille des cinq armées, allez lire le livre. Nous, on va rester avec l'anneau. C'est dans la poche de Bilbo que celui-ci va gagner la comté, où il va rester de longues années. On le retrouve alors que Bilbo est devenu un vieil hobbit et qu'il se prépare à quitter la comté, laissant son héritage à son neveu Frodon, un jeune hobbit, lui aussi très sympathique. Thank you. la contée tout entière fête l'anniversaire de Bilbo. Et au moment du discours, le vieil hobbit a prévu un petit tour. Le voilà qui disparaît tout d'un coup. Quel beau tour de magie! Seul Gandalf est un peu moins enthousiaste. Car l'anneau n'est pas un anneau ordinaire. Il possède le pouvoir de rendre son porteur invisible, ce qui est déjà beaucoup, mais malheureusement, ce n'est pas tout. Après vérification, Gandalf s'aperçoit qu'il s'agit, ni plus ni moins, de l'anneau unique, forgé par Sauron, le seigneur des ténèbres. Si l'anneau retrouvait son créateur, plus rien ne pourrait arrêter celui-ci, et c'est toute la terre du milieu qui tomberait en son pouvoir. Frodon, qui a hérité de son oncle l'anneau, doit impérativement le mettre en sécurité. Il doit donc quitter la comté. Gandalf le presse de rejoindre Foncombe, la demeure de l'elfe Elrond, qui pourrait peut-être le protéger. Accompagné de Sam Gamgee, Peregrine Took et Meriadoc Brandebouc, Frodon prend donc le chemin du départ, échappant de justesse et à plusieurs reprises au cavalier noir, chargé par Sauron de retrouver l'anneau. L'aide du mystérieux Grand Pas, un ami de Gandalf qui leur servira de guide jusqu'à Foncombe, leur sera précieuse. Cet humain taciturne, mais courageux, n'est autre qu'Aragorn, l'héritier du trône du Gondor. Mais l'anneau ne peut rester à Foncombe. Même si le lieu est mieux protégé que la comté contre les cavaliers noirs, il ne peut le rester éternellement. La meilleure solution serait encore de détruire l'anneau. Mais s'agissant de l'anneau unique, cela est plutôt compliqué. La seule manière de le détruire et de priver Sauron de son pouvoir, c'est de le jeter dans les laves des crevasses du destin, au Mordor, là même où il a été forgé des milliers d'années auparavant. Bon, évidemment, c'est là que siègent Sauron et son armée d'orques. La mission est donc périlleuse. Le petit Frodon et ses copains hobbits, éblouissants de courage et d'insouciance, se portent volontaires en premier. Un elfe, Legolas, deux hommes, Aragorn et Boromir, et un nain, Gimli, suivront leur exemple. C'est la communauté de l'anneau qui fait vœu de cheminer ensemble jusqu'au Mordor. Leur route sera évidemment jonchée de dangers, de rencontres, de détours, de malheurs et de séparations, et de batailles, bien entendu. Ils passeront par le Gondor et le Rohan, le plateau de Gorgorath et le mont du Destin. Ils croiseront le chemin d'un Balrog dans les ruines de la Moira et celui de l'elfe Galadriel au pays de Lothlorien. Ils devront affronter les Uruk-hai de Saruman et mener une armée jusqu'à la porte noire du Mordor. Ils verront certains de leurs compagnons disparaître. Ils seront séparés, capturés. Ils auront faim, froid et peur. Leur chemin n'aura rien de ces aventures romanesques dont on peut rêver enfant. Mais chacun des personnages, Frodon le premier, tentera à sa manière d'y prendre la figure d'un héros. Cependant, celui qui, à mes yeux, dans toute cette odyssée de boue, de neige et de mort, aura le mieux compris et incarné l'héroïsme, c'est le brave Sam Gamgee, le petit hobbit jardinier qui accompagne son maître, Frodon, qui a juré de l'accompagner et qui n'aura pas même l'idée de revenir sur sa parole. Obstiné, fidèle et valeureux à sa façon, Sam et ses joues rondes, ses pieds poilus et son parler simple n'ont rien d'aussi noble que le beau Legolas ou d'aussi chevaleresque que le courageux Aragorn. Mais c'est lui qui reste, jusqu'au bout, bien campé sur ses deux pieds et sur sa promesse. C'est lui aussi qui résume le mieux cette histoire et ce qu'elle a à nous apprendre.
C'est comme dans les grandes histoires, monsieur Frodon. Celles qui importaient vraiment. Celles où il y avait danger et ténèbres. Parfois, on ne voulait pas connaître la fin, car elle ne pouvait pas être heureuse. Comment le monde pouvait-il redevenir comme il était avec tout le mal qui s'y était passé ?
Victoire ! À nous la victoire !
Mais en fin de compte, elle ne fait que passer, cette ombre. Même les ténèbres doivent passer. Un jour nouveau viendra. Et lorsque le soleil brillera, il n'en sera que plus éclatant. C'était ces histoires dont on se souvenait et qui signifiaient tellement. Même lorsqu'on était trop petit pour comprendre. Mais je crois, monsieur Frodon, que je comprends. Je sais maintenant. Les personnages de ces histoires, avaient 36 occasions de s'en retourner, mais ils ne le faisaient pas. Ils continuaient leur route. Parce qu'ils avaient foi en quelque chose.
En quoi avons-nous foi, Sam ?
Il y a du bon en ce monde, Monsieur Frodon. Et il faut se battre pour cela.
Quiconque a quelques bribes d'histoire ne pourra s'empêcher de voir dans ce récit un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas m'engouffrer là-dedans. Ça a déjà été dit et redit, je pense. Dans les années 50, lorsque le roman a été publié dans ses fameux trois tomes, que l'on nomme aujourd'hui la trilogie du Seigneur des Anneaux, la comparaison était évidente. Et l'histoire si fraîche que cette mise en avant de l'héroïsme du petit peuple était nécessaire. Le temps a passé. On a fêté cette année les 70 ans du débarquement. Pourtant, le Seigneur des Anneaux n'a pas vieilli. Sur la plage d'Omaha, le sable va et vient avec la houle et la mer et emporte les vestiges de la guerre. Mais la communauté de l'anneau, elle, est toujours là. Les films de Peter Jackson et la superbe BO que l'on a déjà commencé à savourer depuis le début de cette émission ont contribué, c'est vrai, a donné une actualité à l'œuvre de Tolkien, ce qui continue avec Le Hobbit, dont le prochain volet, La bataille des cinq armées, est prévu pour décembre de cette année. Mais je reste convaincue que ce qui anime encore cette histoire, c'est l'âme même de l'héroïque fantasy. Une âme que Tolkien a quasiment forgée de ses mains et dont tous les auteurs d'héroïque fantasy lui sont redevables. En créant un univers de toutes pièces, il a réussi ce tour de force incroyable, malgré les références et comparaisons historiques, à ne pas ancrer son récit dans le temps, dans notre temps, et à éviter à l'héroïsme qu'il raconte le péril de la péremption. Plus encore, cet héroïsme accède à l'universel. Quand on pense à Sam Gamgee, accompagnant Frodon jusqu'au bout malgré les difficultés, à Aragorn à la bataille de Fort-le-Cor, on peut tout aussi bien y voir l'héroïsme des Spartiates dans les Thermopyles que celui des résistants pendant l'occupation. Quand je repense au discours de Sam, ses paroles donnent un sens à bien des choses insensées. Et c'est peut-être pour ça que je l'apprécie tant et que l'œuvre de Tolkien demeure ce monument dont je me suis risquée à faire le résumé et la critique et dont je ne peux, pour finir mon analyse, que répéter cela. Il donne du sens à l'insensé. Passons à présent à une deuxième œuvre, tout aussi culte ou bien en passe de l'être, Game of Thrones, traduit en français par Le Trône de Fer. Je n'ai peut-être pas un très bon niveau en anglais, mais il n'y a pas besoin d'être bilingue pour voir ce qui ne va pas. Game of Thrones signifie littéralement le jeu des trônes. C'est vrai que ça rend un peu moins bien en français, mais c'est à mon sens beaucoup plus près de l'esprit de cet univers créé par George Martin. Le plus simple, et le principe adopté par la majorité, est encore de citer le titre dans sa version originale, en anglais. Au début, Game of Thrones, c'est une série de romans écrits par George Martin depuis 1991. Ces livres ont commencé à être adaptés en série télé par HBO à partir de 2011, une série qui a rencontré un très vif succès un peu partout dans le monde. Là aussi, il me faut préciser que j'ai ressenti quelques craintes à l'idée de me lancer dans un résumé et une critique de Game of Thrones. Que devais-je résumer tout d'abord ? ou m'arrêter. Si pratiquement tout le monde a lu ou vu Game of Thrones, tous n'en sont pas au même niveau. Entre ceux qui n'ont vu que les deux ou trois premières saisons, ceux qui ont regardé la quatrième, ceux qui ont lu les livres et en sont au cinquième tome, ceux qui attendent que sortent les versions françaises et les bilingues qui vont directement à la source, ceux qui attendent dans la légalité et ceux qui téléchargent, impossible de déterminer jusqu'où je pouvais aller dans l'histoire sans tomber dans le spoil. Du coup, j'ai décidé de laisser tomber le résumé et de plutôt décrire l'univers créé par George Martin. Un petit tour à Westeros, ça vous dit ? C'est parti ! De la même façon que Le Seigneur des Anneaux raconte l'histoire d'un anneau, Game of Thrones raconte l'histoire d'un trône. Fiez-vous au titre d'une manière générale, ça aide un peu. Donc, il s'agit d'un trône. Un trône de fer, comme la version française le précise. Oui, mais pas n'importe quel fer. C'est celui d'un millier d'épées, appartenant aux ennemis vaincus jadis par Aegon le Conquérant, qui forgea l'inconfortable chaise grâce au souffle de ses dragons. Le trône est donc censé inspirer la crainte et l'effroi à ceux qui courbent le genou devant leur roi. Assis sur ce monument, le monarque ne manque pas en effet d'en imposer et prend à son compte la puissance d'Aegon. Mais la médaille a son revers. Car s'il représente la grandeur et la force d'un conquérant, le trône est aussi inconfortable que la charge qu'il impose à qui s'y assoit. Nombreux sont les souverains à s'y être blessés ou au moins à en ressentir la dureté. Ce fameux trône, c'est celui des sept royaumes de Westeros, un pays situé dans un univers imaginé par George Martin. Un univers d'heroic fantasy, ou d'epic fantasy, où il est question de créatures étranges, de combats à l'épée, de dragons, de dames en robes longues, d'amour, de vengeance, de magie, bref, le pur cocktail, fidèle au genre. Oui, mais les créatures étranges sont plus effrayantes que séduisantes. Pas question d'elfes ou de fées, mais des marcheurs blancs, car l'hiver vient.
Oh, mon doux enfant de l'été, que sais-tu donc de la peur ? La peur, c'est pour l'hiver, quand la neige recouvre tout d'une épaisse couche de 3 mètres. La peur, c'est pour la longue nuit, quand le soleil reste caché pendant des années et que des enfants naissent, vivent et meurent sans rien voir d'autre que les ténèbres. Le voilà, le temps pour la peur, mon jeune seigneur, quand les marcheurs blancs rôdent dans les forêts. Il y a des milliers d'années, on a connu une nuit qui a duré toute une génération. Les rois mouraient de froid dans leurs châteaux, comme les pauvres bergers dans leurs masures. Et les femmes étouffaient leurs bébés plutôt que de les voir périr de faim. Et elles pleuraient, et elles sentaient les larmes gelées sur leurs joues. Alors c'est ça le genre d'histoire qui te plaît ? C'est dans ces ténèbres que les marcheurs blancs sont arrivés pour la première fois. Ils ont dévasté les villes et les royaumes, galopant sur leurs chevaux morts, chassant avec leurs bandes de pâles araignées plus grandes que des limiers.
L'ambiance est posée. Et ça continue. Les soldats qui combattent à l'épée ne sont pas tous des preux au regard de braise. Et si les beaux gosses sont quand même légion dans la série, il n'est pas rare d'en voir tomber. Certaines scènes rappellent tout de même que parmi les chevaliers, il en est des braves, fidèles et vaillants. Et on comprend pourquoi il s'agit d'héroïque fantasy. Je vous en donne en exemple la scène où les chevaliers du Nord prêtent serment à Robb Stark, qu'ils font roi du Nord. Après avoir écouté la scène en version française, je n'ai pas eu le cœur de la passer telle quelle. Il n'y a vraiment que la version originale pour retransmettre l'émotion qu'elle fait passer. Alors tant pis pour les non-anglicistes.
I'll have peace on those terms. They can keep their red castle. And their iron chair too. The king in the north.
Am I your brother? Now and always.
Now and always.
My sword is yours, in victory and defeat, from this day until my last day.
The King in the North!
The King in the North!
Quant aux autres chevaliers, ils puent, ils jurent, ils violent. On est très très loin des romans de chevalerie classiques, mais peut-être, paradoxalement, plus près de la réalité, malheureusement. Les histoires d'amour sont elles aussi bien loin d'être romantiques. Et elles donnent lieu à pas mal de scènes de sexe. Un thème très présent dans les romans comme dans la série. De la prostitution au viol ou à l'inceste, rien ne sera oublié. Et si la chose donne l'occasion de se rincer l'œil assez souvent en admirant la plastique des acteurs, certaines scènes peuvent mettre le public un tantinet mal à l'aise. Il en est de même pour les scènes de combat qui virent parfois au gore. Deux choses distinguent Game of Thrones des autres livres ou films d'heroic fantasy. La première est le thème politique. Car oui, même s'il est beaucoup question de sexe et de violence, la politique reste tout de même au cœur de l'œuvre. Impossible d'imaginer que George Martin n'ait pas lu Machiavel. Game of Thrones, c'est le réalisme politique version fantasy. Ce fameux trône qui est au centre de l'histoire est bien sûr l'objet de toutes les convoitises. Mais il est beaucoup plus symbolique que ne le comprennent bien des personnages. Et s'il est difficile à conquérir, il est aussi dur à conserver. Gouverner n'est pas une mince affaire. Chaque personnage a sa méthode, et toutes ne sont pas des réussites. Il y aura beaucoup d'enseignements à tirer de la politique telle qu'elle est décrite dans cette histoire. Et l'on retrouve ici, comme c'était le cas dans Le Seigneur des Anneaux, cette intemporalité de la très très bonne héroïque fantasy, capable de décrire, au-delà des dragons et des tours de magie, la condition humaine, les rapports sociaux, les luttes de pouvoir. Les personnages créés par George Martin représentent d'ailleurs très bien ce questionnement et les différentes réponses que l'on peut y apporter. Par exemple, on peut considérer Ned Stark comme qu'ancien, fidèle à sa parole, toujours soucieux de la justice et du bon droit, mais peut-être un brin trop naïf. Robert Baratheon sera davantage à l'image d'un Machiavel, réaliste et un petit peu cynique. La deuxième chose qui distingue Game of Thrones, c'est la fâcheuse tendance des personnages principaux à mourir, violemment la plupart du temps. L'auteur n'hésite pas à sacrifier ses meilleures pièces, et le lecteur, comme le spectateur, doit souvent dire adieu à des personnages auxquels il s'était attaché. Même si cela peut être critiqué, c'est pour ma part un principe qui a du bon, et qui permet de ne pas se fixer sur un seul héros ou une seule héroïne. La narration de George Martin le prouve, puisque chaque chapitre est écrit à partir du point de vue d'un personnage. Des personnages qui évoluent, qui sont complexes, ambivalents, et évitent brillamment l'écueil du manichéisme. Et le fait qu'on ne soit jamais sûr de les retrouver au chapitre ou à l'épisode suivant ne fait qu'accentuer l'attachement que l'on éprouve pour eux. Bref, Game of Thrones a ce côté addictif des sagas et des séries parmi les meilleurs, et qui s'y laisse entraîner n'a que peu de chances d'en ressortir. Un petit conseil à tous les paresseux qui se sont pour l'instant contentés de la série télé. Allez vous plonger dans les romans. Ne vous laissez pas effrayer par les quelques 1000 pages de chaque tome. Ils se dévorent carrément. Et la narration, qui a cette originalité d'explorer les points de vue de différents personnages, permet d'aborder certaines scènes ou passages avec beaucoup plus de profondeur et d'intensité que dans la version télévisée. Un petit mot pour terminer sur la BO de la série, tout simplement sublime, et ce fameux générique qui nous trotte dans la tête pour toute la journée. Les reprises ont été nombreuses sur Internet, à la flûte, au violon, en sifflant. Ma préférée est la version jazz, que l'on s'écoute tout de suite.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Saint-Afrique pendant l'heure fantastique. Notre thème ce mois-ci est l'héroïque fantasy. Et nous continuons notre quête avec l'interview du fan. Tout de suite, on écoute Quentin qui nous parle des jeux de rôle. Bonjour Quentin et merci d'avoir répondu présent pour cette interview du fan. Peux-tu te présenter rapidement aux auditeurs ?
Bien, en gros, je me décris comme un geek de 25 ans, fan d'informatique, de vélo et de jeux vidéo.
Tu es un fan de science-fiction, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Comment est-ce que tu es entré dans cet univers ? Quelle place il tient dans ta vie ?
J'ai connu la science-fiction très jeune avec certains films cultes comme Retour à le futur ou Star Wars. Et j'ai suivi la série Stargate SG-1 durant cette diffusion, plus les spin-offs comme Atlantis ou Universe. Et plus récemment, j'ai découvert Doctor Who, dont j'ai vu la série de 2005 dans son intégralité. Et j'ai commencé le visionnage de la série de 1993. Sinon, j'ai aussi visité cet univers à travers les jeux vidéo, comme Star Fox sur Nintendo ou dernier jeu Metal Gear. Et je suis aussi amateur de steampunk.
L'heure fantastique a pour thème ce mois-ci l'héroïque fantasy et je crois que tu es un fan de jeux de rôle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Un jeu de rôle, c'est un jeu qui inclut une forme d'exploration du monde, une évolution du personnage et un but précis, comme une quête qui peut être une action, un scénario. En gros, c'est ça qu'on retrouve dans la plupart des jeux de rôle, qu'ils soient papier ou en jeu vidéo. Après, il est important de distinguer les deux, un jeu de rôle papier et un jeu de rôle en jeu vidéo, puisque dans un jeu de rôle papier, c'est plusieurs joueurs qui représentent chacun un personnage d'histoire, un héros, et ils doivent se mettre dans la peau de leur personnage, en suivant les directives d'un maître du jeu qui sert à la fois de narrateur et d'interlocuteur pour les interactions avec un PNJ. Voilà, c'est un peu ce qu'on appelle le roleplay en gros, incarner un personnage et réagir comme lui dans les dialogues et dans les situations précises. Tout ce qui est aléatoire dans ces jeux de rôle, comme les dégâts infligés lors des combats, les réussites de certaines compétences, etc., est géré par des jets de dés. Le plus souvent, il s'agit donc de dés de 4 à 20 faces. Un des 20 peut par exemple servir pour déterminer une attaque, alors qu'un des 4 sert des situations plus spécifiques comme un crochetage. Pour en ce qui concerne les RPG, qui sont les jeux de rôle en fond de jeux vidéo, le principe est assez similaire, à part qu'il n'y a pas de maître de jeu, mais un ordinateur qui charge de tout, de modéliser l'environnement, faire parler les personnages et déterminer les valeurs aléatoires, les dégâts, etc. Voilà. Et c'est donc le joueur qui contrôlera lui-même son personnage pour réaliser sa quête. En ce qui me concerne, donc pour les jeux de rôle, j'ai énormément joué aux RPG tels que Secret of Mana et jusqu'à Skyrim plus récemment, et ainsi que quelques mêmes RPG comme Guild Wars. En ce qui concerne les jeux de rôle papier, j'ai joué à quelques-uns comme prennent place dans les univers du Donjon de Nullbuck, de Sable Rouge, de Guild Wars.
Une dernière question. Si tu devais être un personnage d'un univers d'Heroic Fantasy, qui serais-tu ?
Eh bien, je choisirais mon propre personnage que je joue dans le jeu de rôle Nullbuck, Percy Pioche de l'Ombre, un nain voleur, parce que j'aime beaucoup de personnages qu'on considère comme totalement contradictoires.
On les trouve en groupe de 5 dans les caves des facultés. Ils adorent faire les malins avec leurs dés. Ils dessinent dans leurs cahiers des épées et des loups-garous. Ils n'écoutent pas en cours d'anglais car ils connaissent déjà tout.
Ils achètent des boîtes de jeux dont on comprend pas le titre. Ils collectionnent des bonshommes en plastique.
On les voit sur internet dans les GN en caleçon.
Ils parlent les langues des elfes et lisent des dictionnaires clingons. Tu peux sauver les reliques avant qu'ils ne disparaissent. Tu dois lancer un défi, c'est une ultime parfaite. Dans la table des bonus, tu viens faire ta sélection. Et tu sauras combien tu donnes à notre association.
Tu sauveras les héroïstes.
Ces galères en entreprise quand il faut communiquer. D'ailleurs c'est pas Android, c'est la machine à café. Ils s'endorment aux réunions cachés derrière un carnet. Ils
sont jamais au courant quand y a un match à la télé.
Pendant la pause déjeuner, ils refont l'éducation. Des collègues indisposés par leur incompréhension. Ils énoncent les suppléments de la troisième édition.
Et les malus à la classe d'armure d'un perso loyal bon. Imagine le monde sans nous, un monde sans épreuves, un monde sans suppléments à collectionner. Plus personne pour dessiner des épées, des boucliers. Plus personne pour dire pas mal dans une soirée. Plus personne pour dire chaussettes, tagazoc et puis baston. Plus personne pour dire que tag c'est magie. Fini les torturés, les bizarres réchauffés. Et bonjour à la culture réformatée.
Un grand merci à Quentin d'avoir accepté de nous expliquer un peu l'univers de ceux que l'on appelle les rôlistes. Et on continue cette émission avec la rubrique que vous attendez tous, consacrée au cinéma pour jouvencelle, aux navets manichéens et bien pensants, aux accents patriotiques douteux, le film De Pucelle.
C'est vrai ce qu'on dit, vous êtes le fils d'un démon et d'une pucelle ?
Ouais, pourquoi ?
Vous avez plus pris de la pucelle.
Et le film De Pucelle ce mois-ci est Georges et le dragon. Depuis des millénaires, dans un pays magique, les légendes parlent de dragons et de preux chevaliers qui les chassent. Quand la fille du roi disparaît, un chevalier relève le plus grand défi de sa vie. Évidemment, il va tomber amoureux de la princesse, qui est évidemment promise à un autre, qui est évidemment un vilain méchant. Aux clichés éculés, on rajoute une note d'humour à deux balles et des effets spéciaux tout pourris qui permettent de voir un bébé dragon tout mignon faire ses premiers pas sous les yeux attendris de la princesse Luna. Ce film de Tom Reeve, sorti en 2004, et qui a l'originalité de réunir Patrick Swayze et Jean-Pierre Castaldi, est le digne exemple de ce que peut être de la mauvaise héroïque fantasy. Les ingrédients sont pourtant presque similaires à ceux de Game of Thrones. On a une princesse, un dragon, des chevaliers, un trône convoité. Seulement la princesse n'a rien d'une Khaleesie. Non seulement elle n'est pas aussi sexy que la belle Daenerys, loin de là, pour rendre justice à l'actrice, c'est peut-être dû à son costume très sage, mais la petite Luna a un côté pénible et lourdeau qui agace très vite. Le dragon qu'elle protège est plus mignon qu'effrayant et ressemble à un petit veau avec des ailes. Quant au preux chevalier Georges, le beau gosse de l'histoire, c'est un gentil crétin tout à fait assorti à la princesse. Le terme « brave » s'applique à lui dans tous les sens du terme, y compris le moins élogieux. Le scénario est tellement caricatural qu'à moins de regarder le film au second degré, on risque d'en avoir la nausée. Mon radar à manichéisme a carrément explosé dès les premières minutes. J'ai peut-être le tort d'apprécier des personnages complexes qui évoluent, qui ont du relief, de la profondeur, les scénarios surprenants qui ont du sens, qui posent des questions, et si on y ajoute quelques scènes de combat bien réalisées, ainsi qu'une ou deux scènes un peu hautes, j'estime que ça ne gâche rien, bien au contraire. Il me faut tout de même rendre justice à Georges et le dragon. Oui, il s'agit bien d'un film de pucelle, mais il est loin d'être le seul. Malheureusement, l'héroïque fantasy semble faire le nid de ce genre de film un peu niais que les chaînes de télé passent pendant les vacances d'hiver. Il peut être sympathique de les regarder avec ses enfants et du chocolat, pour rêver sans se prendre la tête, ou avec des amis et du vin chaud au second degré pour rigoler. Mais n'allez pas croire que l'Heroic Fantasy se réduit à ça. Il est temps à présent de passer à la dernière rubrique de cette émission, celle des conseils et des astuces. Vous entamez une quête héroïque et vous vous demandez comment vous équiper pour voyager en toute sécurité ? Ne bougez pas. Tous les trucs et astuces sont sur Radio Saint-Afrique pendant l'heure fantastique.
And who are you, the proud Lord said, that I must bow so low? A cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws, and mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. So he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear.
La plupart des romans et des films d'Heroic Fantasy plongent leurs héros au sein d'une quête. À l'image de Frodon et ses compagnons de la communauté de l'Anneau, ou bien d'Aira ou Bran Stark, les personnages qu'on nous décrit sont bien souvent en chemin, à la recherche de quelque chose ou quelqu'un, ou poursuivant un objectif héroïque et mystérieux. Vous voulez suivre leur exemple et vous lancer dans une quête ? Très chevaleresque. Mais il serait bon, avant de partir, de s'inspirer de l'expérience de ces illustres modèles afin de préparer votre voyage. Premier élément, l'objet de la quête. Qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas de partir en randonnée. Vous devez donc définir à l'avance l'objectif que vous vous fixez. On essaye de se la jouer un peu fantastique ou romanesque, sans quoi votre quête risque de manquer de ce côté épique qui lui est nécessaire. Recherchez une épée magique qui vous permettra de terrasser vos ennemis, ça le fait. Aller chercher du lait à 1h du matin, même si c'est pas évident d'y arriver selon où vous habitez, ça le fait pas. Pas assez héroïque, vous m'avez compris. Pas besoin en revanche que le truc soit hyper précis dès le départ. Si vous manquez d'imagination, vous pouvez toujours partir en quête de vous-même. Si vous le dites avec un air un peu mystérieux, ça passe. Une fois que vous avez établi l'objet de votre quête, reste à vous entourer. Si certains préfèrent la quête solitaire, qui a l'avantage de conférer à son héros tout le prestige, j'ai pour ma part une préférence pour les quêtes de groupe. En choisissant vos compagnons de voyage de manière à créer une complémentarité, vous parez à la plupart des périls que vous pourrez rencontrer en route. Mais attention, choisissez bien, car vous allez devoir supporter vos petits copains pendant un bon moment et dans des conditions parfois pas très rigolotes. On évite donc les râleurs et les traînes-la-patte. L'équipement à présent, c'est là la partie la plus délicate. Il s'agit en effet de partir le plus léger possible pour pouvoir affronter tous les chemins que vous devrez prendre. Ils sont souvent ardus et un trop lourd chargement vous y porterait préjudice. Mais il faut tout de même emporter le nécessaire, car même si vous pourrez peut-être compter sur l'accueil bienveillant d'hôte sur votre route, il vous faudra vivre en autonomie de longs moments. On met donc de côté tout le superflu et on reste sur les basiques. des sous-vêtements de rechange, de quoi pouvoir chasser, vous défendre, et suivez le conseil du brave Sam Gamgee, en n'oubliant pas d'emporter un peu de corde avec vous. Après, on oublie le GPS et les chaussures en Gore-Tex. Une quête, une vraie, ça se fait à l'ancienne, sinon c'est pas du jeu. Il faudra savoir lire une carte et faire du feu. Par contre, le règlement n'a rien contre les objets magiques, bien au contraire. Boussole enchantée, vêtements elfiques, tout est bon à prendre et ne fait que donner plus de classe à votre entreprise. Ça y est, vous êtes prêts? Enfilez vos capes de voyage et en route. N'oubliez pas d'envoyer les photos. Merci de m'avoir accompagné le temps d'une heure fantastique pour ce petit voyage au cœur de l'héroïque fantasy. On se retrouve en décembre pour une spéciale Goal of the Dead. En attendant, n'oubliez pas de bien vous couvrir, car vous le savez, l'hiver vient.